France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Saez.
Bonsoir Judith Duportail.
Bonsoir.
Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendante, membre de l'excellent collectif des Journalopes et vous publiez cette semaine « L'amour sous algorithme » aux éditions Goutte d'Or. Comme son nom l'indique, c'est un livre qui est à la fois une enquête et puis un récit personnel. C'est sur le, disons, le modèle de la narrative non-fiction. C'est un genre plutôt anglo-saxon. Et l'objet de ce livre, c'est une application que les Français utilisent beaucoup qui s'appelle Tinder. Pourquoi est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez eu envie de faire ce livre ?
L'idée est venue de faire ce livre quand je découvre un matin, tout simplement en lisant un article au hasard, que nous étions tous notés secrètement sur Tinder selon notre désirabilité. Et que cette note était donc demeurait mystérieuse et que nous n'avions pas le droit de connaître notre propre note. Donc je lis cet article et je regarde mon téléphone et je me dis mais mon téléphone est en train de m'évaluer maintenant, peut-être plusieurs fois par jour, sur ma désirabilité. Je me dis il faut que j'ai envie d'en savoir plus. Personnellement pour moi ça m'évoque toute une ribambelle de mauvais souvenirs, notamment un où quand j'étais adolescente, il y avait un garçon de ma classe qui avait noté toutes les filles de la classe. Et moi, je me souvenais très bien que j'avais eu un 5 sur 10 parce que j'étais sympa, mais un peu trop grosse. Et ce mec s'appelait Tristan. Et je me dis, j'ai cet imbécile de Tristan embédé dans mon téléphone, quoi. Enfin, du coup, j'ai eu envie d'en savoir plus.
Voilà. Alors justement, très intéressant parce qu'on parle ici de l'application Tinder. Tinder, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça fonctionne ? C'est une application qui s'est clairement imposée comme le leader des applications de rencontres. Tinder est une application qui appartient aujourd'hui au groupe Match et qui possède aussi d'ailleurs d'autres sites ou applications de rencontres. Et c'est devenu un leader. Pourquoi ? Quel est le principe de Tinder ? Et pourquoi est-ce que finalement ça vous choque de savoir que vous avez un indice de désirabilité ? C'est quoi la promesse de Tinder ?
Tinder, du coup, c'est une application de rencontre très simple et dont la simplicité a fait le succès, où vous voyez des profils défilés qui sont un peu présentés comme des cartes. Donc moi, je suis une femme hétérosexuelle, donc je vois défiler des profils d'hommes. Et si la personne me plaît, je swipe, donc je balaye l'écran vers la droite. Et si la personne a fait pareil pour moi, il y a un match, ça veut dire qu'on a le droit on peut se parler. Et si le mec me plaît pas, je le balaye vers la gauche et il ne se passe rien.
Et tout ça est basé sur la géolocalisation aussi, théoriquement.
Alors, c'était ainsi qu'ils se sont présentés quand ils se sont lancés, disant qu'ils étaient une application qui facilitait les rencontres de manière géolocalisée. Ce dont je me rends compte en faisant mon enquête, c'est que la géolocalisation, finalement, a assez peu d'importance. Puisque nous sommes notés sur notre désirabilité, ce qui a plus d'importance, c'est de rester avec des gens de notre ligue, entre guillemets. Nous sommes évalués sur notre désirabilité parce que Tinder estime que nous avons plus de chances de matcher avec des personnes du même niveau que nous. Pour le dire très schématiquement, les beaux avec les beaux, les moches avec les moches, les moyens avec les moyens. Moi, ce qui me pose problème avec cette question de désirabilité, c'est que à mes yeux, c'est comme si je rentrais dans un bar ou dans une fête et que les hommes qui étaient considérés trop désirables pour moi ou pas assez désirables pour moi, tout d'un coup, je n'avais juste même pas le droit de les voir. C'est comme s'ils avaient été effacés de mon univers. Et ça, moi, ça me pose problème. Ça veut dire que tout ce qui fait mon sens de l'humour, mon style, ma répartie, tout ça, c'est comme si ça n'avait plus aucune importance.
Ce fameux indice de désirabilité, ça s'appelle ce qu'on appelle un Elo score. Oui. C'est en fait une formule mathématique.
En fait, c'est une cote que vous avez qui évolue. Et dans le monde des échecs, pour expliquer assez simplement, si vous jouez une partie d'échecs et que vous gagnez contre quelqu'un d'excellent, vous gagnez des points. Mais si vous perdez contre quelqu'un qui est considéré moins bon que vous, vous perdez des points. Et donc Tinder s'était inspiré de ce classement pour faire pareil. Si vous matchez avec quelqu'un qui a beaucoup de succès, vous gagnez des points. Mais si quelqu'un de moche ne vous matche pas, du coup, vous en perdez.
Et alors effectivement, ce que vous pointez aussi, c'est que, et c'est pour ça que le livre s'appelle comme ça, c'est qu'on est évidemment dans une immense opacité de la part de Tinder. Vous avez enquêté, vous les avez sollicités plusieurs fois, sur cette question du fameux Elo score, on refuse de vous répondre.
Bah, c'est même plus loin que ça, ça veut dire qu'on accepte de me parler. Par exemple, dans le livre, je raconte une interview avec Sean Rad, le cofondateur de Tinder, et il n'accepte de me parler que si je promets, enfin ses agents de communication, de ne même pas mentionner l'existence du Elo score. J'ai même pas le droit d'évoquer cette question. Et plus tard, après, quand j'essaie d'évoquer cette question avec eux, c'est impossible, c'est le mur direct.
C'est quand même un petit peu, le cœur de leur activité aussi, de la manière dont ils font de l'argent. Pourquoi ? Parce que Tinder est une application gratuite, mais on peut, en revanche, améliorer sa visibilité sur l'application avec des espèces de packages. Et donc, en réalité, on va payer pour sortir d'un endroit de non-désirabilité, en réalité, c'est ça ?
Oui, c'est tout à fait ça. C'est comme si on évoluait tous. Enfin, l'image qui me vient en tête, moi, c'est comme si on était tous sur un grand bateau. Puis il y avait l'étage des moches, l'étage des moyens, l'étage. Puis de temps en temps, vous avez le droit d'acheter un petit ticket pour aller dans les salons de première classe. Vous restez une demi-heure, puis après vous redescendez, quoi.
Et ça, c'est quelque chose que intuitivement, quand on est un utilisateur de cette application, on peut sentir, on se doute. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la promesse de Tinder. Quelle est finalement la promesse pour ces utilisateurs et en quoi est-ce que c'est finalement, disons, malhonnête d'appliquer ce fameux AlloScore ?
Pour moi, la question qui se joue ici, elle est intéressante parce que Tinder a une image d'entreprise assez progressiste finalement, prend position dans les débats de société, défile pour la Gay Pride, le jour du 8 mars fait des campagnes pour l'égalité salariale. Et finalement, quand on fouille et quand on accède à des documents qu'ils ont eux-mêmes rédigés, qui décrivent des systèmes de matching ou leurs propres entrailles, ce sont des valeurs bien différentes qu'on trouve décrites ici.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous faites cette longue enquête, vous essayez, comme vous le dites, d'entrer en contact plusieurs fois avec l'équipe de Tinder, vous réussissez à obtenir 800 pages de données sur votre utilisation propre de Tinder, qui vous enseigne beaucoup de choses sur l'utilisatrice que vous êtes, mais pas tant que ça sur l'algorithme. Et finalement, et c'est un petit peu le cœur de ce livre, vous ne parvenez jamais à mettre la main sur l'algorithme, mais vous finissez par trouver une information qu'en fait, on aurait tous pu consulter depuis assez longtemps. C'est le brevet. Qu'est-ce que c'est que ce brevet ?
Tout à fait. Le brevet de Tinder, donc c'est un document public, absolument tout le monde aurait pu mettre la main dessus. Un document de 27 pages écrit en caractère 8 qui décrit, donc c'est assez amusant à regarder, hein, qui décrit par exemple le swipe, du coup pour pouvoir le déposer auprès de l'Office des brevets américains pour que ça devienne leur propriété intellectuelle.
Le fameux fait de balayer l'écran.
Voilà,
sur la
exactement.
Droite, sur la
le
gauche.
Fameux souhait de balayer l'écran. Alors il faut faire attention parce qu'un brevet, c'est pas une description exacte de ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur les serveurs de Tinder, mais c'est la meilleure façon d'aller au plus proche de l'état d'esprit d'une entreprise. C'est
comme sa une philosophie,
feuille de route.
Finalement.
Voilà, c'est ça. C'est un peu comme une feuille de route ou une note d'intention ou ouais, voilà, sa philosophie exactement.
Et qu'est-ce que vous découvrez alors dans ce brevet ?
Alors, du coup, là, on découvre que Tinder se réserve la possibilité de nous évaluer sur notre attractivité, mais vraiment pas seulement, aussi sur notre intelligence, en lisant nos messages, en regardant si on écrit des mots compliqués avec plusieurs syllabes ou pas, en faisant passer nos messages à la moulinette de tests inventée par l'armée américaine pour deviner le niveau d'études d'un locuteur. Sur notre niveau d'études et notre niveau de revenus, qui sont des informations faciles à avoir hein, quand on a nos profils, quand on a nos informations Facebook.
Parce qu'effectivement, vous pouvez vous connecter par Facebook.
Oui, dans la majorité des cas, d'ailleurs, ça se passe comme ça. C'est compliqué de se connecter hors Facebook et d'être évalué sur tous ces critères-là. Donc, intelligence, richesse, niveau d'éducation. Et on découvre aussi que Tinder se réserve la possibilité d'évaluer les hommes différemment des femmes. Et dans ce brevet est donné un exemple très précis de deux utilisateurs fictifs qui s'appellent Harry et Sally. Et Harry a fait des bonnes études et gagne beaucoup d'argent. Et du coup, le serveur lui attribuerait des points bonus, alors que Sally, au contraire, aurait des points malus. Dans ce brevet est décrit un système de matching pour que, quelque part, l'homme soit toujours dominant sur la femme, que ce soit en termes d'âge, un peu plus âgé, d'argent ou de savoir, qu'il ait fait davantage d'études.
Et inversement, une femme plus âgée qui ne correspond plus donc à cette relation hétérosexuelle assez normée telle que l'a décrit Tinder, donc avec un homme qui serait, disons, mieux diplômé, qui aurait un meilleur revenu et qui serait dans la relation idéale mise en contact avec une jeune femme plus jeune, la femme, je sais pas, de 34 ans, qui est célibataire sur Tinder et qui gagne bien sa vie, elle est cotée comment ? Comme vous, par exemple ?
Alors, je peux pas vous donner une réponse cash à cette question en vous disant elle aura 272 sur 430. Enfin, mais en revanche, ce qu'on peut dire à la lecture de ces documents, c'est que elle sera mise en relation avec des hommes qui auront toujours quand même quelque chose en plus qu'elle. Et ça favorise, si vous voulez, un modèle traditionnaliste du couple. Ouais.
Qui n'est évidemment pas celui que Tinder défend publiquement.
C'est ça, c'est là pour moi où se pose l'immense question de la cohérence ou même de la sincérité. Moi je me définis comme féministe, donc je trouverais ça regrettable, mais peut-être que le monde fonctionne comme ça. Peut-être que les hommes aiment les femmes plus jeunes et les femmes les mecs plus vieux. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas le dire ? Pourquoi ne pas être transparent ? Et dans ce cas, au moins, on pourrait avoir le choix, oui ou non, d'adhérer à ces valeurs et de se créer un compte ou pas.
Justement, c'est la grande question, celle de la transparence. Il y a un grand mouvement aujourd'hui qui demande la transparence des algorithmes de sites qu'on pratique beaucoup, mais sur lesquels on n'est pas obligé d'aller. Ça va de Tinder à Facebook. Il y a des campagnes qui aujourd'hui prônent hashtag delete Facebook, finalement le fait de supprimer Facebook. Vous, aujourd'hui, vous conseilleriez quoi à quelqu'un qui utilise Tinder ? De militer pour avoir l'algorithme, de le supprimer ou de simplement être conscient ?
Peut-être tout à la fois. Ouais, c'est sûr. Moi, en tout cas, en tant que journaliste et même en tant qu'utilisatrice, je pense qu'il nous faut militer pour davantage de transparence. Et de l'autre côté, si on veut être un utilisateur de Tinder, oui, en tout cas, d'être conscient de tout ce qui se trame et de tout ce qui se joue, de même toutes les techniques qui sont employées pour développer une forme d'addiction chez nous, avec le principe de la récompense aléatoire qui a été étudié notamment par des chercheurs aux États-Unis qui ont développé le concept de design de l'addiction pour dire que si on peut pas s'empêcher de retourner sur Tinder 4 à 5 fois par jour, c'est pas parce qu'on est faible moralement aussi, c'est parce que c'est très très bien fait pour qu'on ait envie d'y retourner régulièrement. Donc oui, si bon, c'est des personnes qui ont envie de rester sur Tinder, je leur conseillerais de lire un maximum de choses pour que l'asymétrie entre le niveau de sophistication de Tinder et nous-mêmes soit un petit peu moins abyssale. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon livre, même au-delà de l'aspect algorithmique, révélation journalistique. C'est aussi de raconter l'espèce de détresse, ou de distance, ou de froideur dans lesquelles je me suis retrouvée, quand même en étant tombée amoureuse sur Tinder. Et du coup, j'espère dire aux autres femmes et même aux autres mecs que ouais, ils sont pas les seuls, je pense, à être dans une espèce de désarroi. Tinder, c'est l'application la plus rentable de l'Apple Store aujourd'hui. Et faut pas perdre de vue que ces applications, notre solitude ou notre galère sentimentale, c'est un élément indispensable de leur business model. Et du coup, se poser la question, parfois, si on se sent minable, si on se sent misérable, si on est là en train de swiper avec un sentiment de vide, se demander à qui ça profite, parce qu'en fait, il y a quelqu'un à qui ça profite.
Merci beaucoup Judith Duportail pour ce livre « L'amour sur l'algorithme » qui effectivement est à la fois une excellente enquête journalistique et un très beau récit qui invite aussi à réfléchir aux effets que produit justement l'utilisation de ce type d'application sur finalement notre moi profond. Merci beaucoup, c'est « L'amour sur l'algorithme » et c'est paru aux éditions Goutte d'Or le 21 mars dernier.